VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 17h30 temps universel, le monde aujourd'hui édition du mercredi 6 décembre 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, le président Donald Trump va annoncer sa décision reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Nous allons y consacrer une fenêtre spéciale dans nos journaux. Au Niger, les magistrats ont entamé une grève de 72 heures. Nous ferons également le point sur la visite d'Emmanuel Macron en Algérie. Et en Russie, Vladimir Poutine est encore candidat à sa propre succession. Ne ratez pas dans 10 minutes la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Le président Donald Trump doit annoncer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il prévoit aussi de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville abritant des lieux saints pour les trois religions révélées. Abdourahmane Dia.
Dans un discours très attendu, M. Trump reconnaîtra Jérusalem comme la capitale d'Israël. Selon un officiel américain, le patron de la Maison-Blanche va mettre en avant la reconnaissance d'une réalité à la fois historique et contemporaine. Ce revirement est une promesse de campagne de M. Trump et va à l'encontre d'une décennie de prudence américaine sur ce dossier. Le débat sur le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem n'est pas nouveau. En 1995, le Congrès avait voté une loi dans ce sens, mais les différentes administrations qui se sont succédées ont retardé son application. Néanmoins, Rex Tillerson, secrétaire d'État américain, a assuré que le président Trump était très engagé en faveur du processus de paix israélo-palestinien. M. Trump a mis en place une équipe censée relancer les pourparlers de paix qui sont au point mort depuis 2014. Elle est dirigée par son gendre Jared Kushner.
Les mises en garde se sont multipliées peu avant l'annonce du président américain de sa décision de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Cette décision divise encore une fois Israéliens et Palestiniens. Le point avec Salwa Jafari.
À Jérusalem-Est, les Palestiniens.
Nous ne sommes pas satisfaits de la situation. Comment peut-il transférer l'ambassade de Tel Aviv? La capitale d'Israël est à Tel Aviv. Vous voulez une autre capitale ici?
À l'ouest de la cité, les Israéliens se réjouissent.
Je pense qu'il était temps de le faire. 3000 ans plus tard.
Avant même l'annonce de Donald Trump, les Palestiniens sont déjà dans la rue, en colère. Dans le reste du monde, les alliés régionaux des États-Unis sont pris à revers. Le roi jordanien Abdallah II a averti Donald Trump des implications sérieuses qui mettront en péril les efforts de paix et qui froisseront aussi bien les musulmans que les chrétiens. Au Caire, Abdallah Sisi a conseillé au président américain de ne pas compliquer davantage la donne régionale. Les factions palestiniennes ont appelé à 3 jours de colère dès mercredi dans les territoires occupés. En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a menacé de rompre de nouveau les relations diplomatiques avec l'État hébreu. Et à Londres, Theresa May a rappelé que le statut de la ville devrait être déterminé par des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Le président Macron se dit, lui, préoccupé. Au Vatican, le souverain pontife est inquiet.
Mes pensées vont à Jérusalem. Je ne peux pas cacher ma profonde inquiétude face à la situation qui a émergé ces derniers jours. En même temps, j'appelle fortement à respecter le statu quo de la ville, conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, les magistrats nigériens entament ce mercredi un mouvement de grève de 72 heures à l'appel de leur syndicat. Ils protestent contre la lenteur dans l'adoption du projet de statut révisé de la magistrature qui datant depuis 6 mois. Ayouba Hassan est le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, au micro d'Abdoulrazak Idrissa, notre correspondant.
À la cour d'appel de Niamey, où s'est ouverte hier mardi la session des assises qui juge les grands délinquants et autres criminels, il n'y a pas eu d'audience ce mercredi matin. Avec la grève de 72 heures du syndicat des magistrats, ce sera alors 3 jours de moins sur les 15 qu'elles dureront. Selon le secrétaire général du syndicat autonome des magistrats du Niger, Ayouba Hassan, aucun des 80 juges du siège ou du parquet n'était présent à son bureau ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
On a eu des échos aussi de l'intérieur du pays. Donc toutes les sections de l'intérieur du pays nous ont rapporté justement que les camarades ont suivi donc notre mouvement de grève à 100%. Pour cette première journée, on a vu que la grève a été suivie, on n'a pas encore été appelé, mais on attend toujours. Donc nous, nos portes sont grandement ouvertes, on est ouvert au dialogue. S'ils veulent discuter avec nous, on est disposé à le faire.
Cette grève d'avertissement est observée en protestation de la lenteur dans l'adoption du statut révisé de la magistrature discuté depuis des mois entre gouvernement et syndicats. Contactés pour une réaction à ce mouvement de grève, les services du ministère de la Justice ont indiqué à VOA Afrique que le ministre est en déplacement. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Et toujours au Niger, experts et chefs militaires se sont réunis à Niamey pour élaborer une politique de sécurité nationale alors que leur pays est confronté à des attaques meurtrières du groupe djihadiste Boko Haram. Un document sera remis à la présidence au terme des 3 jours de discussion. Au Nigeria, 2 appartements penthouse valant plusieurs millions de dollars et appartenant à l'ex-ministre nigériane du pétrole, Desani Alison Madueke, ont été saisis à Lagos. Côte d'Ivoire, un impressionnant incendie avec de multiples explosions ont ravagé une usine de peinture dans la zone industrielle d'Abidjan. Aucun bilan officiel n'était disponible dans l'immédiat, mais des témoins ont parlé de plusieurs blessés gravement brûlés. Aucun policier ou pompier n'était en mesure d'infirmer ou confirmer ces assertions. Les barrages routiers jouent un rôle clé dans les mécanismes de financement des groupes armés en République démocratique du Congo et en Centrafrique. C'est ce qu'affirme un rapport de l'International Peace Information Service qui a cartographié plus de 1000 barrières routières en RDC et en RCA. Une présence armée a été constatée dans 2 barrières routières sur 3 selon l'étude. En Tanzanie, 38 membres du principal parti d'opposition, dont 2 parlementaires, sont en garde à vue depuis une semaine. Ils sont accusés de rassemblement illégal et de dégradation de biens, des charges qu'ils nient, d'après leur avocat. Le président français Emmanuel Macron effectue ce mercredi sa première visite en Algérie, une visite qualifiée d'amitié et de travail par l'Élysée, où les questions de mémoire et de la lutte contre le terrorisme au Sahel devront être abordées. Les détails avec Raïssa Girondin.
Tourner la page de l'histoire franco-algérienne et la recouvrir de nouvelles ambitions, tel est le défi d'Emmanuel Macron qui, lors de sa campagne électorale, s'est fait remarquer à Alger en déclarant que la colonisation est un crime contre l'humanité. À son arrivée, il a déposé une gerbe au monument des martyrs de la guerre d'Algérie, même s'il rappelle ne pas être un otage du passé. L'autre aspect sensible de ce voyage concerne les questions touchant le terrorisme et la sécurité. Le président français doit s'entretenir avec son homologue Abdelaziz Bouteflika, malgré l'état de santé fragile de son homologue algérien, secondé par son premier ministre. De par ses frontières communes avec le Mali, le Niger et la Libye, Alger est devenu un interlocuteur important dans le Sahel et Emmanuel Macron souhaiterait un engagement plus important de l'Algérie dans cette zone où sévissent certains groupes terroristes. Emmanuel Macron devrait également aborder les enjeux économiques. La France reste le premier employeur étranger dans le pays, mais perd du terrain face à la Chine.
En Russie, le président Vladimir Poutine a annoncé qu'il va se présenter pour un 4e mandat à l'élection de mars 2018. Anastasie Tchudiech.
C'est depuis la ville de Nizhny Novgorod, sur la Volga, que M. Poutine a annoncé sa candidature lors d'une rencontre avec des ouvriers. La Russie va continuer d'aller de l'avant et dans ce mouvement en avant, personne ne l'arrêtera jamais, a-t-il lancé. Malgré le suspense entretenu par le Kremlin, la candidature de M. Poutine ne faisait aucun doute. La campagne électorale doit être lancée après la fixation officielle de la date du scrutin, prévue en mars 2018 par le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe. Conformément à la loi russe, cette date devrait être annoncée entre le 7 et le 17 décembre. Une victoire placerait M. Poutine à la tête du pays jusqu'en 2024. Il a été président de 2000 à 2008, puis de 2012 à nos jours. Entre 2008 et 2012, il a présidé le gouvernement pendant que Dmitri Medvedev était au Kremlin.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, Eric Manirakiza, La Minute Éco.
La Tunisie et la Namibie dans la liste des paradis fiscaux. D'après l'Union européenne, ces deux pays sont les plaques tournantes de l'opacité fiscale. Cette liste comprend 17 pays ou territoires autonomes non membres de la zone Schengen. Le Maroc et le Cap-Vert sont sommés de renforcer leur système fiscal. L'île Maurice, impliquée dans le scandale des Panama Papers, n'est pas concernée. Cacophonie au sein de la Banque mondiale sur le Niger. Le bureau local à Niamey désapprouve un rapport préfacé par Soukaina Khan, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, la Guinée, le Mali et le Niger. Signé par de nombreux experts de l'institution de Bretton Woods, ce rapport critique des pratiques de la classe politique du Niger et dénonce des usages endémiques de corruption, de clientélisme, d'impunité ou de passation de marchés non transparents. Dans sa mise au point, le bureau de la Banque mondiale de Niamey précise qu'il ne reflète aucunement la position de la Banque mondiale vis-à-vis des efforts des autorités pour lutter contre la pauvreté et développer l'économie de manière durable et inclusive. Enfin, la Banque mondiale va octroyer à l'Égypte plus $1 milliard pour les réformes inclusives visant à soutenir l'économie, créer des emplois et réduire la pauvreté. Le mois dernier, le FMI a promis le décaissement de la troisième tranche de $2 milliards d'un programme de prêt triennal de $12 milliards pour sauver l'économie égyptienne. Le Caire a connu une forte baisse des recettes touristiques et une réduction des investissements étrangers depuis le printemps arabe en 2011.
Nicolas Pino est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la Ligue des Champions, suite et fin du premier tour ce soir.
Liverpool et Séville, qui occupent les deux premières places du groupe E, maîtrisent leur sort pour accéder aux huitièmes de finale. Le club anglais de Jurgen Klopp joue à domicile face au Spartak Moscou et n'a besoin que d'un match nul. Les Espagnols se rendent chez la modeste équipe slovène de Maribor, déjà éliminée. Dans le groupe F, le Shakhtar Donetsk et Naples vont se disputer la deuxième place qualificative derrière Manchester City, déjà qualifié. Le Shakhtar qui joue justement contre Manchester City, le club italien qui doit s'imposer sur le terrain de Feyenoord, qui a jusqu'à présent perdu tous ses matchs en Ligue des Champions. Dans le groupe G, les Allemands de Leipzig affrontent le leader invaincu, Besiktas, déjà qualifié. Porto reçoit la lanterne rouge, Monaco. Et puis dans le groupe H, derrière Tottenham et le Real Madrid, figés aux deux premières places, Dortmund se retrouve dans une incroyable situation de devoir lutter à distance avec l'Apoel Nicosie. Pour être reversé en Europa League, les deux clubs sont à égalité de points et au match particulier. Le Borussia est devant en termes de différence de but. A noter que le club allemand va défier le Real Madrid, tandis que l'équipe chypriote se rend à Tottenham.
Hier soir, défaite du PSG.
Incapable de produire du jeu de qualité, le Paris Saint-Germain s'est incliné pour la deuxième fois en trois jours au Bayern de Munich, 3-1. Les Parisiens conservent la tête du groupe, tandis qu'Anderlecht inscrit ses trois premiers points en battant le Celtic Glasgow 1-0. L'Atlético Madrid est éliminé de la Ligue des Champions après son match nul à Chelsea, 1-partout. L'AS Rome en profite pour sortir première du groupe C après sa victoire 1-0 contre Karabakh. Manchester United a terminé juste devant le FC Bâle à la faveur de sa victoire obtenue contre le CSKA Moscou 2-1. Les Suisses, eux, se sont imposés sur le terrain du Benfica Lisbonne, 2-0. Enfin, dans le groupe D, la Juventus a fait le boulot en battant au Pirée l'Olympiakos 2-0. Le FC Barcelone, déjà qualifié, a battu le Sporting 2-0.
Coupe CECAFA au Kenya, aucun match aujourd'hui.
Soudan du Sud, Zimbabwe a été annulé en raison du forfait de dernière minute de l'équipe zimbabwéenne. La Fédération zimbabwéenne de football parle de raisons de sécurité au Kenya pour justifier son annulation.
Et puis on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain, Nicolas.
Russell Westbrook, auteur de son 8e triple-double de la saison, a porté Oklahoma City pour une victoire face à Utah 100-94. Cette soirée a été marquée par la blessure de Devin Booker, le jeune et talentueux ailier de Phoenix, qui a vu son équipe perdre également également face à Toronto, 113 à 126. Enfin, victoire des Wizards contre Portland, 106 à 92. Et quel match de Bradley Beal qui a marqué près de la moitié des points des Wizards, soit 51 points. Nouveau record personnel.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Jérusalem-Est est à la une de l'actualité avec l'annonce du président américain sur le statut de cette ville convoitée par les Israéliens et les Palestiniens. Jérusalem est aussi considérée comme une ville sainte pour les trois grandes religions révélées. Et Kabadou a joint Jacques Bessie, un franco-israélien habitant à Jérusalem.
Jérusalem, je crois que dans les prières juives, on dit toujours l'an prochain Jérusalem, ce qui veut dire que le spirituel est bien au-dessus du politique d'aujourd'hui. C'est le lieu le plus sacré du judaïsme aujourd'hui, car il y a des vestiges du temple du roi Salomon, du temple d'Hérode, qui reste le mont du temple et le mur des lamentations. À partir de ce moment-là, la religion juive, je crois qu'elle n'a pas besoin de s'exprimer sur l'importance qu'a Jérusalem avec elle. À l'époque de Jésus, il y avait le mont du temple avec le temple qui était sur un mont, bâti sur une colline de Jérusalem, puisque Jérusalem est entourée de plusieurs collines. Et ce temple était le lieu le plus sacré pour la population juive de l'époque.
Par rapport au christianisme, il y a énormément d'églises à Jérusalem, de plusieurs courants chrétiens.
C'est le berceau du christianisme. Jésus a eu son dernier repas, il a été crucifié à Jérusalem et il est enterré à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Il y a eu d'abord le judaïsme avec l'édification de Jérusalem comme capitale du roi David, du roi Salomon. C'est là où la religion juive, pour ainsi dire, s'est manifestée, se manifeste toujours. Il y a eu ensuite le christianisme. C'est rajouter la troisième branche religieuse pour Jérusalem, qui est l'islam.
Pourquoi est-ce aussi une ville qui est sacrée pour la religion musulmane ?
L'islam a deux villes saintes avant Jérusalem. Médine, bien sûr, il y a également la Mecque. Jérusalem est devenue sainte pour l'islam au 7e siècle, lorsque Mahomet est arrivé, il a pris son envol vers le ciel pour rejoindre Dieu, il a pris son envol de l'extérieur du temple. Donc à partir de ce moment-là, la mosquée El-Aqsa a été édifiée. Il y a eu beaucoup d'édifices religieux musulmans qui ont été construits au-dessus de l'espace du mont du temple et autour. Donc à partir de ce moment-là, troisième lieu de l'islam, il faut savoir également une chose, c'est que le Coran ne parle jamais de Jérusalem. Aujourd'hui, le problème qui se pose pour les trois religions coexistent. Et à partir de ce moment-là, chaque communauté reste paisible vis-à-vis de l'autre.
Voilà, c'était Jacques Bessie, un franco-israélien habitant à Jérusalem.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mardi à 18h temps universel sur VOA Afrique. Quel statut pour Jérusalem, ville sainte pour chrétiens, juifs et musulmans au cœur de l'un des plus longs conflits de la planète. Israël la considère comme sa capitale, les Palestiniens comme celle de leur futur État, tandis que les facilitateurs envisagent une capitale partagée. Pour participer et témoigner, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Pour la seconde année consécutive, la République démocratique du Congo est le pays africain où le plus grand nombre de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. 1,7 million de personnes en 2017, selon le rapport publié aujourd'hui par le Centre de recherche du Conseil norvégien des réfugiés. Pour plus de détails, Claire Morin-Gibourg a joint la responsable des programmes en RDC, Boutaïna Toudjani.
La situation en RDC est dramatique. 1,7 million de personnes qui ont fui leur maison depuis le début de l'année, essentiellement pour cause d'insécurité. C'est quand même un nombre très important. Pour vous donner une idée, ça représente environ 5500 personnes par jour. Alors, le grand changement en 2017, c'est que non seulement il y a la situation qui existe dans le pays, à l'est du pays, c'est le nombre de déplacés qui a bondi cette année. Et aussi, dans l'ensemble du pays, le grand changement, c'est aussi la crise de Kasaï qui a fait énormément gonfler les chiffres de déplacements qu'on a connus depuis le début de l'année 2017. Donc on est dans une situation qui est sans précédent, en quelque sorte, hein, pour la RDC.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous voyez sur le terrain ?
Sur le terrain, on voit une situation qui est dramatique. On a des besoins qui ont été multipliés tout au long de l'année. Et en parallèle, on a des financements aussi qui ont fortement diminué. Donc on voit surtout des situations de déplacés qui sont sans assistance. Vous imaginez en ce moment, par exemple, avec la saison des pluies, on a des personnes qui vivent à l'extérieur et qui n'ont même pas un petit abri, qui essayent de se protéger avec une moustiquaire, qui n'ont pas accès à de la nourriture. Et en plus, ces personnes déplacées, en plus, ajoutent un poids supplémentaire sur un niveau de pauvreté qui était déjà là. On voit une situation qui est vraiment de plus en plus dramatique et une vulnérabilité des personnes déplacées qui est en très forte augmentation, bien sûr, parce qu'on n'a pas la capacité au niveau des organisations humanitaires de répondre à l'ampleur de ces besoins.
Comment cette crise impacte-t-elle vos programmes ?
Alors, ça a beaucoup impacté nos programmes en termes de mobilité, puisqu'on s'est retrouvé en 2017 à devoir étendre nos programmes sur deux nouvelles provinces, qui sont le Kasaï central et le Tanganyika. Donc, d'abord, il y a la question de la mobilité, de la flexibilité, où il a fallu qu'on s'adapte à une nouvelle situation en termes de couverture géographique. On n'est pas, nous, NRC, évidemment, on n'est pas en capacité de couvrir l'ensemble des besoins. Donc, le grand changement par rapport à nos programmes, ça a été de travailler surtout sur comment faire avec les capacités que nous avons et face à l'ampleur de cette situation. Comment faire pour assurer que le minimum de couverture qu'on va pouvoir avoir ait un impact le plus important.
Boutaïna Toudjani, la responsable des programmes du NRC en RDC.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum se met à l'heure du football ce jeudi. Le Sénégal, le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et la Tunisie défendront les couleurs de l'Afrique à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Quelles sont leurs chances ? Qui peut créer la surprise ? Primes non payées, fédérations africaines mal préparées ? Comment combler les lacunes notées du côté africain lors des derniers mondiaux ? Pourquoi des élites du foot africain comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas réussi cette fois-ci à se qualifier et pourquoi y a-t-il si peu d'entraîneurs africains? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
En Côte d'Ivoire, le journal quotidien national Fraternité Matin, l'un des plus vieux quotidiens du continent, est en crise. Le personnel vient d'entamer une grève pour exiger le départ du directeur général et de son adjoint pour mauvaise gestion. Le gouvernement a décidé il y a quelques mois de la mise en place d'un plan de redressement du groupe de presse confronté à des difficultés financières. Sur place, le reportage d'Ibrahim Tunkara.
C'est un vent de mécontentement qui souffle en ce moment sur Fraternité Matin, le quotidien ivoirien pro-gouvernemental. Une partie du personnel demande en effet le départ du directeur général, Venance Konan, ainsi que de son adjoint. Ces travailleurs ont brillamment manifesté lundi dans la cour de l'entreprise. À l'origine de ce malaise, les difficultés auxquelles doit faire face le groupe de presse et le plan de redressement annoncé par le gouvernement. Marc Ayevou, secrétaire général de la coordination des journalistes pour la défense de leurs droits à Fraternité Matin.
Nous avons estimé que les conditions ne sont pas encore remplies pour parler de départ. Ça ressemble plutôt à un licenciement. Nous disons non. Nous avons aujourd'hui une gestion de Fraternité, une gestion scrabeuse, une gestion dangereuse. Il y a des détournements tout azimuts. L'entreprise est dans le gouffre par la faute de la direction qui est en place. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, nous ne sommes pas payés.
À la direction générale de l'entreprise, on dit comprendre ce mouvement d'humeur. Venance Konan, directeur général de Fraternité Matin.
Comme je l'ai dit, quand on annonce un plan social, on applaudit rarement le DG. On applaudit rarement les responsables de l'entreprise. Donc c'est normal qu'ils demandent la tête du DG. Ils estiment que c'est le DG qui doit partir, que c'est pas à eux de partir. Mais on n'a pas dit que quelqu'un va partir. On a dit qu'on va faire un plan social, mais un plan social, il y a un volet formation, il y a un volet reconversion des travailleurs, il y a un volet réaffectation, etc. Maintenant, s'il est nécessaire que certains partent, oui, mais on le fera dans les meilleures conditions pour les uns et les autres.
Sur les difficultés qui plombent le fonctionnement du journal, on écoute à nouveau Venance Konan.
Ah, c'est des problèmes d'argent. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'il y a une chute drastique des ventes des journaux. Ça, tout le monde le connaît. Que ce soit Fraternité Matin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ailleurs dans le monde. Parce que nous sommes en train d'assister à une mutation. Aujourd'hui, c'est le numérique qui est en train de prendre le pas sur le papier. Mais il y a aussi la vétusté de nos machines. Nous avons une imprimerie aussi. C'est pour ça que l'État nous donne les moyens de réinvestir dans des machines plus adaptées.
La crise à Fraternité Matin n'est que le reflet du malaise qui prévaut depuis quelques années au sein des entreprises de presse de Côte d'Ivoire. Traoré Moussa, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI.
En début d'année, nous allons organiser, je crois, un grand forum avec l'appui du ministère de la Communication pour essayer d'identifier tous les problèmes pour trouver des solutions durables pour l'ensemble de la presse. C'est vrai que l'État a décidé d'octroyer une enveloppe de 10 milliards au groupe Fraternité Matin pour sa relance. Mais au-delà de Fraternité Matin, c'est toutes les entreprises de Côte d'Ivoire qui sont sinistrées qui ont besoin d'un appui. Mais il faut dire que ces appuis, s'il n'y a pas de réforme en profondeur, si les appuis viennent de cette façon, tout ça, ça va être des efforts vains. C'est pour cela que nous devons nous asseoir pour repenser même l'entreprise, pour repenser l'économie de la presse ivoirienne.
Fraternité Matin a vu le jour en décembre 1964. Il est le premier quotidien dans un pays qui en compte aujourd'hui pas moins de 15. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le chanteur français Johnny Hallyday est mort cette nuit à l'âge de 74 ans, succombant à un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis plus d'un an. Il a traversé les générations et les styles musicaux du rock aux guitares hurlantes jusqu'aux ballades, entrées dans le répertoire de la variété française. Jacques Aristide nous retrace sa vie.
Quand l'ombre et la lumière dessinent sur toi des montagnes, des forêts et des îlots de terre. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Avec des tubes comme Je t'aime, Quelque chose de Tennessee.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit.
Et Allumer le feu, c'est un très large public du monde francophone que Johnny Hallyday a conquis durant sa longue carrière sur près de 6 décennies. Véritable monument national, souvent surnommé le French Elvis, il est né Jean-Philippe Smet le 15 juin 1943 dans le 9e arrondissement de Paris. Sa carrière d'école en 1960, l'adolescent de 17 ans s'inspire de ses idoles américaines et mise sur son image de rebelle. Il trône pendant des années au sommet des palmarès en France, émeute et scènes d'hystérie émaillent ses concerts. Il devient une icône, sacrée idole des jeunes, puis roi du rock.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes.
Mais Johnny Hallyday touche également à d'autres styles et devient au fil des décennies un monstre de la variété. Il a enregistré plus de 1000 chansons, vendu 110 millions d'albums et effectué une centaine de tournées, dont plusieurs en Afrique. Comme celle en mai 1968 à Dakar, Niamey, Ouagadougou, Kinshasa, Forlami, aujourd'hui N'Djamena et Yaoundé. Mais il est expulsé le jour de son arrivée dans la capitale camerounaise, après avoir été à l'origine d'une bagarre à l'hôtel de l'Indépendance.
La nuit, pour nos cœurs dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps.
Il a mené en parallèle une discrète carrière au cinéma avec un jeu d'acteur qui a des fois surpris les critiques.
C'est vrai?
Évidemment, qu'est-ce que tu crois?
Il a connu plusieurs mariages, dont celui très médiatisé en 1965 avec la chanteuse Sylvie Vartan. Son dernier remonte à 1996 avec Laetitia Boudou, un mannequin de 32 ans, sa cadette. Grand fumeur de tabac, il a longtemps flirté avec la drogue et l'alcool. Une destroyance que lui et ses proches évoquaient régulièrement. Sa disparition a suscité un flot de réactions. Le président français Emmanuel Macron a rendu hommage à sa gueule, sa voix et son lyrisme brut et sensible.
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma, la mise en onde. Présentation, Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook.